Un coach à la une.
Aujourd'hui, dans Un coach à la une, je vous propose un focus sur la supervision professionnelle. Pour parler de ce thème, je reçois le coach et superviseur Denis Bismuth, dont le blog est une source d'informations importantes sur l'évolution des métiers de l'accompagnement. Définition, exemple, réflexion, notre échange a été aussi riche qu'apprenant. Comme souvent, ce fut également l'occasion d'un partage autour de l'apparition et du développement du coaching et de la supervision en France. Bienvenue, je suis David Marion, coach professionnel. Dans ce nouvel épisode d'Un coach à la une, profitez d'une heure avec un homme qui a le talent pas si commun d'expliquer simplement des choses complexes.
Un coach à la une. Écoutez, un professionnel vous dévoile un élément clé de sa pratique du coaching.
Denis Bismuth, bonjour.
Bonjour.
Comment es-tu venu au coaching ?
Ah, c'est une longue histoire. En fait, j'ai commencé ma carrière comme ébéniste et puis très vite, je me suis orienté vers la formation au métier du bois, donc prof d'atelier, des choses comme ça. Et puis j'ai fait tout un cursus sur le développement de l'intelligence, les outils de développement cognitif, en parallèle de mon travail à l'université, et qui m'a amené à la question du développement de l'intelligence et à la question de l'accompagnement. Et c'était à une période où on commençait tout doucement à parler du coaching, c'était vraiment les années 90. Et donc j'ai fait une formation en coaching et je me suis retrouvé avec un très très gros marché qui était de grands groupes industriels du type EDF, L'Oréal, etc., etc. Et donc du coup, ça m'a permis de développer tout un business autour du coaching. Et en même temps, ça m'a permis de me former en permanence. C'est-à-dire que j'ai passé des années à faire alterner le travail coaching et puis la formation.
Et s'agissant de la supervision ?
Alors la supervision, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis en place un outil qui s'appelle les groupes de coprofessionnalisation. Ça, c'était les années 90. C'est un outil qui est né d'une manière assez étonnante. Je me suis retrouvé un jour dans une centrale électrique d'EDF avec un patron qui avait été coaché, qui avait trouvé ça génial et tout. Je veux coacher tout le monde. Comme on avait quand même marché, puis que j'avais pas envie de le perdre, évidemment, je les ai réunis et je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez besoin? Il y en a un qui me dit, en fait, je sais pas si je fais bien mon boulot. Je peux pas en parler avec mes collaborateurs. Je peux pas en parler avec mon boss. Puis ma femme, elle en a marre d'entendre parler de mon boulot. Du coup, moi, je sais pas, au fond. Est-ce que moi, je fais bien mon boulot? Est-ce que les autres, ils font la même chose que moi? Est-ce que ce qu'ils font, c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On sait pas. Et du coup, j'ai entrevu tout de suite une opportunité qui était de mettre en groupe des managers de terrain et de les faire travailler sur leur pratique professionnelle en utilisant les outils du coaching. Donc la notion de groupe de coprofessionnalisation, elle est née en ce moment où il y avait une demande collective très intuitive de dire « j'ai besoin de vérifier que je fais bien mon boulot ou pas ». Et donc on a démarré un groupe comme ça, et après c'est parti. J'ai fait ça dans pas mal de grandes entreprises. Et donc utiliser les outils du coaching, non pas en individuel, mais en collectif, ça donne une dimension très très différente. Et notamment, c'est pour ça que j'ai appelé ça les groupes de coprofessionnalisation, ça donne aux outils d'accompagnement une fonction de professionnalisation. Le coaching, c'est un outil, quand on est dans une relation individuelle, qui permet de solutionner, de dénouer, d'avancer, de réfléchir, etc. Mais c'est pas forcément un outil qui a une grande finalité de professionnalisation. Par contre, dès que vous créez un collectif autour de ces outils-là, vous augmentez la fonction professionnalisation en diminuant la fonction résolution de problèmes. En fait, dans les situations de supervision des managers, on ne résout pas des problèmes, on les pose. On aide les gens à problémer, dans le sens canadien du terme, c'est-à-dire de transformer une situation mal vécue, désagréable, avec un sentiment négatif, en quelque chose de structuré, d'organisé, en fait, en faire un objet. C'est-à-dire que quand le manager a mis au tableau devant ses collègues tous les éléments du problème, il en a fait un objet, et donc à partir du moment où c'est un objet, eh ben on peut le travailler. C'est plus quelque chose qui est à l'intérieur de moi, c'est un objet à l'extérieur de moi qui devient un objet de travail. La première fonction du travail de supervision dans le collectif, c'est de permettre une objectivation des situations, une problématisation en quelque sorte.
Comment tu définirais la supervision simplement ?
Déjà, je reprends la définition de Michel Moral. Un coach, c'est un naïf qui parle à un professionnel. Ça m'est arrivé d'ailleurs, il y a quelques années ça, de coacher un golfeur, alors je ne sais même pas comment ça marche. En une séance de travail, il a gagné 30%. Mais moi, j'ai rien fait. J'ai juste été là, en quelque sorte. Le coach, c'est ça. C'est quelqu'un qui introduit avec quelqu'un une relation de miroir, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, je sers de miroir à la personne en lui posant mes questions naïves. Et donc, le coaching est une situation où on a un naïf, quelqu'un qui n'est pas du métier, qui est dans un échange avec un professionnel. Et c'est le simple travail de reflet du naïf sur le professionnel qui est en soi aidant pour dénouer des problèmes. Le superviseur, c'est un professionnel qui parle à un professionnel. C'est-à-dire que je peux superviser des coachs, je peux superviser des managers parce que c'est des métiers que je connais. Par contre, je peux pas superviser un musicien, mais je peux le coacher. Alors ça a un avantage certain, c'est que quand je suis coach, donc en position de naïf, je ne peux être qu'en position basse. Je peux pas avoir d'avis sur la question qui agite le professionnel. Tout ce que je pourrais dire, ça sera des bêtises et des projections. Par contre, quand je suis superviseur de coach, dans la mesure où c'est un métier que je commence à connaître très bien, j'ai déjà une vue plus globale de la problématique qu'il amène, et donc je peux, par mes questions, qui sont intentionnellement orientées par les intuitions que j'ai, l'amener où, en tant que coach, je ne pourrais pas amener mon client.
Et comment tu définirais la supervision professionnelle, alors ? Qu'est-ce qui la caractérise ?
Le champ de la supervision, c'est un champ qui a été investi depuis très longtemps par les groupes Balint ou par les psychanalystes dans ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant la supervision didactique. C'est-à-dire que lorsque des thérapeutes ou des psychanalystes se sont formés, ils ont eu tout au long de leur vie ensuite un processus de supervision qui était une sorte à la fois de formation continue, à la fois de réflexion, à la fois de travail sur l'éthique, prise de recul, etc., etc. Donc la supervision a été fondée en quelque sorte, conçue pour ces métiers de l'accompagnement type psychothérapeute, psychanalyste. Le concept de supervision s'est ensuite appliqué au coaching parce que le coaching est venu sur le terrain de l'accompagnement. Et donc du coup, la notion de supervision s'est appliquée au coach. Et là, en ce moment, il y a un très grand débat dans les institutions professionnelles. Peut-on nommer supervision les processus d'accompagnement qui utilisent les outils du coach, qui ne concernent pas des publics qui sont psychothérapeutes, coach, psychanalystes, etc. Autrement dit, est-ce que moi, DRH, je peux me former à superviser d'autres DRH ? Est-ce que moi, manager, je peux me former à superviser d'autres managers ? Et à ce moment-là, étendre le champ de la supervision à des métiers qui, pour l'instant, ne sont pas considérés comme étant ouverts à la notion de supervision. Moi, mon expérience me fait dire que je peux parfaitement superviser un DRH, un manager, à partir du moment où je connais son métier.
Excuse-moi, mais là, c'est pas tout à fait la même chose. Tu me dis qu'il y a un débat. La question est de savoir, c'est est-ce que les écoles de supervision peuvent accepter des professionnels qui veulent se former à la supervision pour ensuite superviser des collègues, si je comprends bien.
Alors, c'est une très bonne question, effectivement. Alors, il y a deux choses. La formation des superviseurs de coach et de psychothérapeutes, telles qu'elles existent sur le marché, sont effectivement parfaitement adaptées à la supervision des coachs et des psychothérapeutes. Je suis tout à fait d'accord. Mais les outils de l'accompagnement qu'on trouve dans le coaching et dans la supervision peuvent aussi concerner des professionnels qui ne sont pas coachs et psychothérapeutes. Et moi, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un est son propre outil de travail, il a besoin pour se professionnaliser d'avoir ce processus d'accompagnement, c'est-à-dire d'avoir ces moments d'introspection où il se prend lui-même comme objet de réflexion et de travail. Et c'est très simple, hein. Si j'ai une machine, de temps en temps, je la répare, j'ajuste la machine, moi, ça ne me change pas. Mais si je suis moi-même mon propre outil, comment je fais pour m'ajuster, pour m'adapter, pour me faire progresser, etc. Donc il faut que je me prenne comme objet de travail, et la fonction de la supervision, c'est justement d'amener les professionnels à se prendre comme objet de travail pour affûter ses valeurs, préciser ses croyances, etc., etc., ou comprendre ce qui est en train de se passer.
Avoir un espace méta, quoi.
Avoir un espace méta, exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, ma société, je l'ai appelée métavision. La métavision, c'est quoi ? C'est la vision de la vision. Mon travail consiste à apprendre aux gens à voir comment ils voient le monde, comment ils font pour donner du sens au monde, et comment ils introduisent des biais, ils se trompent, ils font des causes-effets inexactes, etc. Et donc toutes les décisions qu'ils prennent sur le sens du monde, qui vont déterminer leurs décisions d'action, sont des processus qu'il est nécessaire de leur amener à observer pour pouvoir comprendre pourquoi ils n'arrêtent pas de se tromper toujours de la même manière.
Tu l'as un petit peu évoqué, mais s'il fallait résumer, en quoi est-ce utile pour un professionnel d'être supervisé ?
C'est pour ça que j'ai appelé ça les groupes de coprofessionnalisation, parce que tout tourne autour de la définition du mot professionnel. Il y a deux conceptions de la notion de profession dans le monde. Il y a la conception occidentale qui dit à partir du moment où tu as fait tes preuves, que tu appartiens à la corporation, on considère que tu es un professionnel, donc on te donne le label professionnel, tu es un pro, tu fais partie du clan en quelque sorte. Ça, c'est la définition anglo-saxonne. Puis il y a la définition latine qui est beaucoup plus subtile que ça, qui part de l'origine du mot professionnel qu'on va trouver dans profémi ou profétari, qui nous reste en français dans professer une idée. C'est en fait exprimer, mettre des mots sur. Ce que c'est qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui fait la même chose que n'importe quel expert, sauf qu'il le fait en conscience. Et d'ailleurs, pour anecdote, très souvent, les managers, dans les feedbacks de mes groupes de coprofessionnalisation, ils me disent « je fais pas forcément différemment, mais maintenant je sais ce que je fais ». Donc j'ai développé une conscience de mon action. Cette conscience de son action, elle ne peut se développer qu'à partir du moment où j'ai élaboré un discours sur. Le groupe de supervision, comme tous ces groupes d'analyse de pratique, quels qu'ils soient, il a comme fonction d'offrir au manager un espace dans lequel il va se confronter à sa propre représentation du monde, il va donc échanger presque avec lui-même, moi je fais juste miroir, et donc il va se battre avec lui pour arriver à dire les choses de plus en plus clairement, et plus il dit les choses clairement, plus il en a conscience, hein. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément, nous disait Boileau.
Au 17e.
Oui, c'est ça en plus. Donc, plus je me bats avec moi-même pour dire les choses clairement, plus j'ai une certaine conscience, et plus j'ai une certaine conscience, plus je m'exprime clairement. Donc on va s'apercevoir qu'il y a une sorte de dialectique de construction entre la parole et la conscience, que donc professionnaliser quelqu'un, c'est l'amener à mettre en place un processus qui va l'aider en permanence à être capable d'aller de l'action à la réflexion, et à aller vers toujours plus de conscience de ce qu'il fait. Alors c'est un très gros avantage. C'est qu'à partir du moment où je développe une conscience de qui je suis et de ce que je fais, je développe une conscience de mes limites. Très souvent, ce qui se passe avec des coachs qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font, c'est qu'ils pensent faire une chose, mais ils en font une autre. Et ils ne le savent pas. J'ai supervisé longtemps des coachs qui avaient fait du co-développement. Ils disent qu'ils font du co-développement, ils font complètement autre chose. Ils font de la gestion de conflits, ils font de la régulation. Et donc très souvent, moi dans les groupes de supervision, et même dans la supervision individuelle, j'amène la personne à prendre conscience qu'elle ne fait pas ce qu'elle croit qu'elle fait, elle fait autre chose. C'est important pour cette première raison, c'est-à-dire que si je ne fais pas ce que je crois que je fais, il y a toutes les chances que je me trompe et que je trompe mon client.
Du coup, si on résume, c'est comme si en mettant à distance le faire, se révélait l'être.
Exactement. Et alors non seulement l'être, effectivement, parce qu'au bout du compte, hein, dans les supervisions, au bout d'un moment, la vraie question, c'est qui je suis quand je fais ce que je fais.
Oui, il y a une dimension existentielle.
Oui, complètement, mais vraiment, c'est impossible d'y échapper. Ça serait bête de se refuser un travail aussi passionnant. Mais il y a un autre intérêt à travailler sa limite. C'est qu'à partir du moment où je suis à ma limite, et qu'il est nécessaire que j'en sorte, pour une raison ou pour une autre, c'est intéressant que j'apprenne à en sortir les yeux ouverts. Je le métaphorise toujours de cette façon-là. Si vous êtes sur une route où il y a une ligne blanche continue, tout va bien, vous roulez, il n'y a pas de souci. Mais si à un moment vous voyez au milieu de la route un landau, qu'est-ce que vous faites? Vous transgressez la règle qui est je franchis la ligne blanche. Je transgresse une règle, je ne suis plus dans mon posture de coach. C'est nécessaire que j'en sorte 5 minutes parce qu'il y a un problème à résoudre. Mais je garde les yeux ouverts et je suis en permanence conscient du fait que je suis sorti de mon contrat.
Est-ce que tu aurais un exemple du coup pour que ce soit plus explicite?
Quand vous êtes dans une séance de coaching, et puis qu'à un moment, il y a une demande de formation, ça peut être aussi une demande de mettre sur la table des problématiques personnelles, papa, maman, tout ça. Donc, vous avez le choix de dire, c'est pas mon boulot, je rentre pas là-dedans. Mais vous avez le choix de dire, sortons un tout petit peu de notre contrat, consciemment, explicitement, mettons 3-4 mots là-dessus, et revenons à notre contrat. Si je le fais consciemment, il n'y a pas de danger. Si je le fais sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que je me jette sur ce truc-là pour faire une psychanalyse sauvage, il y a toutes les chances que je fasse des bêtises. Donc ce qui est important, c'est pas tellement de transgresser des règles, c'est d'être conscient que je suis en train de le faire et du risque que je prends et que je fais prendre à mon client. Et donc tout ça, ça nous amène à ce qui est central pour moi dans la question de la supervision des professionnels. L'objet, c'est en partie d'amener les professionnels à être conscients de leurs limites, mais c'est aussi la capacité à dire, là il faut que je sorte de ma limite, c'est nécessaire, donc j'ai les yeux grands ouverts, je peux y aller parce que j'ai les yeux grands ouverts et je sais que je suis en train de franchir une limite. Dans le travail d'accompagnement, tous ces métiers de la relation, il est nécessaire de les amener à avoir en permanence conscience de ce qu'ils sont en train de faire au moment où ils le font.
Mais ça veut dire aussi que le hors-piste en conscience est possible, donc provisoirement, à la condition sine qua non que le professionnel en question y soit supervisé.
Absolument.
Sinon, il n'y a pas d'espace justement pour prendre de la distance, de la hauteur et mettre des mots sur ce qu'il a fait ou vécu.
Complètement. Alors non seulement pour prendre conscience de ce qui s'est passé, mais en plus pour apprendre à le faire. Il faut considérer la supervision comme étant un entraînement à prendre conscience. Et donc, vous retournez sur le terrain en tant que coach en ayant mis en place des processus cognitifs qu'on appelle le réfléchissement. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est Piaget. Les stratégies de réfléchissement que je mets en place, elles me permettent de développer une conscience et en même temps donc de développer mon professionnalisme. Mais il y a un autre avantage à ce travail de supervision, notamment sur ces publics comme le manager ou le DRH, c'est de les faire réfléchir sur leur culture. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise comme EDF, tous ces grands groupes-là, qui font superviser leurs managers, eh bien ils se mettent à prendre comme objet de travail leur culture managériale.
Leurs valeurs ?
Leurs valeurs, mais les valeurs partagées. C'est-à-dire, quelle identité commune nous avons ? Et alors, ça résout un problème qui est énorme dans ces entreprises-là, c'est que chaque manager a l'impression d'être tout seul dans son coin et le seul à avoir le problème. Et donc, en fait, on n'a pas une corporation de managers dans son entreprise, on a une somme d'individus, mais qui ne sont pas un corps constitué. Et un des gros avantages, et c'est ce qu'on fait dans l'entreprise apprenante, c'est d'amener le corps intermédiaire à se constituer en une corporation interne, en quelque sorte. C'est-à-dire de mettre en travail son idéologie, sa façon de penser le management, etc., etc., pour la faire évoluer. Le risque qu'on prend en ne faisant pas ça, c'est d'avoir des managers seuls dans leur coin, plutôt rouages, en quelque sorte, et pas capables d'être dans la prise de responsabilité, c'est-à-dire la réponse « non, je ne ferai pas ça ». Pour qu'un manager ose dire « non, t'es bien gentil, mais moi, je ferai pas ça », il faut qu'il ait le support de son collectif. C'est-à-dire que si dans un groupe des managers, ils ont eu l'occasion de dire « non, mais ça, on se demande de faire ça, mais ça, c'est pas possible », eh bien, il va pouvoir aller voir son chef d'une manière beaucoup plus assurée plutôt que de se sentir seul dans son coin. Donc il y a ces deux aspects. Il y a à la fois l'aspect professionnalisation, c'est-à-dire que je crée de la conscience individuelle, je crée des outils de travail, etc. Et en même temps, je crée une conscience collective qui fait que je deviens membre d'une corporation qui devient à ce moment-là, parce qu'elle devient une corporation, un rouage essentiel du fonctionnement de l'entreprise. Le management intermédiaire, c'est le nœud central de l'entreprise. Parce qu'en fait, ils sont à l'interface entre deux champs de critères qui n'ont aucun point commun. C'est-à-dire, penser l'entreprise d'un point de vue financier, stratégique, c'est une chose. Penser l'entreprise du point de vue du travail bien fait, c'est une autre. L'acteur de terrain, lui, il pense travail bien fait. Le patron, il pense stratégie et finance. Tous les deux ont raison. Eh bien, ces deux champs de critères sont complètement inconciliables. Et la seule manière de faire fonctionner l'entreprise, c'est d'avoir un corps intermédiaire qui maintient ensemble ces espaces qui n'ont rien en commun. Et donc, ils ont un rôle central. Donc, en fait, ils sont là pour maintenir ensemble des choses qui, théoriquement, pourraient pas tenir ensemble parce qu'on ne peut pas se parler. Et donc, c'est le cœur de l'entreprise, le nœud central de l'entreprise, là où toutes les contradictions, tous les paradoxes se jouent, c'est le management intermédiaire. Et une des raisons pour laquelle il faut superviser les managers, c'est que justement, ce sont des gens qui passent leur temps à gérer des paradoxes. Parce qu'en réalité, c'est un métier impossible. On ne peut pas manager, et c'est un peu un miracle que ça existe, parce qu'en réalité, c'est un espace de gestion des contradictions en permanence. Et la seule manière de gérer des contradictions, c'est de les prendre comme objet de travail. Donc toutes les formations au management sont très sympathiques, hein, j'ai rien contre les formations au management, allez-y, allez-y. Mais le fait d'avoir fait une formation au management ne vous donne pas de compétences à manager, aucune compétence. Ça vous donne des idées, ça vous donne des principes, ça vous initie à des comportements, mais la compétence, elle va s'installer quand vous prendrez comme objet de travail vos manières de manager à vous.
Mais finalement, ça veut dire qu'il est pratiquement pas possible pour un certain nombre d'entreprises de bien fonctionner s'il n'y a pas un espace de supervision qui est institutionnalisé.
Complètement.
Ben c'est grave, parce que je pense pas que ça soit la majorité.
Non seulement ça, mais en plus on fait une autre énorme bêtise qui est d'instituer le coaching, c'est-à-dire en faisant des coachs internes, on fait exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire en fait faire que l'entreprise s'approprie la légitimité à gérer les paradoxes et les contradictions. On va s'apercevoir, moi ça m'est arrivé souvent de gérer des coachs internes, qui sont dans une position tout aussi intenable que le management intermédiaire. Donc pour moi, au lieu de dire on embauche des coachs internes, ils vont faire ça, c'est beaucoup plus intelligent d'amener les entreprises à créer des groupes. Alors, pas forcément des groupes de la même entreprise. Si tous les managers sont de la même entreprise, on va travailler plus l'aspect culture partagée, corporation, etc. Mais on peut très bien imaginer des groupes inter-entreprises où des managers viennent de plusieurs entreprises, mais sont dans un échange sur leur propre pratique professionnelle.
C'est même plus riche, parce que du coup, il y a un partage de savoir, savoir-faire, savoir-être.
Complètement, oui. Et là, on va s'apercevoir que, par exemple, un patron de PME n'a pas des problématiques forcément très très différentes d'un manager de terrain, d'EDF ou de ces grandes boîtes-là. Parce qu'en réalité, ce qui est en travail dans la supervision, comme dans le coaching, c'est pas le travail, c'est ma relation au travail. L'objet, c'est pas le travail, c'est quelle relation j'ai à mon travail.
Ma représentation de mon travail.
Exactement. Au fond, toutes ces techniques-là, quelles qu'elles soient, elles renvoient à un seul champ, qui est l'analyse de pratique. On peut définir la pratique comme étant le discours sur l'activité. La pratique, c'est pas ce que je fais, c'est ce que je dis que je fais. Et c'est complètement différent, parce que je suis pas du tout conscient de tout ce que je fais. Donc la pratique, c'est le discours sur ce que je fais. L'objet du travail dans l'analyse de pratique, c'est le discours sur l'activité. En psychanalyse, au fond, qu'est-ce que je prends comme objet de travail? C'est ma relation au monde, ma représentation que je fais du monde. Donc toutes les techniques d'accompagnement pourraient être englobées dans le concept d'analyse de pratique, dans la mesure où l'analyse de pratique, c'est prendre comme objet de travail la représentation que je me fais de mon activité. Donc voilà, pour moi, le concept central, c'est le concept d'analyse de pratique, et il va se décliner sous plein de formes. Alors ça peut être la psychanalyse, ça peut être la psychothérapie, le mentorat, etc. Et en fait, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que la méthodologie que j'emploie, alors pourquoi psychanalyse plutôt que mentorat, est adaptée à l'intention? Et le gros travail qu'il y a à faire en supervision, c'est ça. C'est, je mets le coach devant cette question, est-ce que la manière dont je m'y prends est au service de l'intention que j'ai? Est-ce qu'il y a une cohérence entre l'outil que j'ai choisi et l'intention que j'ai? Et c'est ça le vrai travail de la supervision.
Donc ça fait une vingtaine d'années que tu animes des groupes de co-professionnalisation. Quelle est ta vision sur l'évolution de ce que j'appelle moi la supervision professionnelle?
Moi, je pense que la supervision, comme le coaching d'ailleurs, arrive pour répondre à un besoin plutôt récent dans l'histoire du travail, qui est en fait la parcellisation du travail qui a isolé les individus. C'est-à-dire que dans les façons de travailler du 18e, 19e siècle ou même avant, au fond, il y avait beaucoup de collectifs. Les individus étaient encadrés par du collectif. Et donc, en fait, une société très encadrante dépossède l'individu de la nécessité de réfléchir sur lui. Et en fait, depuis les années 60, hein, 68, on a dit aux individus, soyez vous-même, débrouillez-vous, faites votre vie, prenez-vous en charge, vous êtes responsable de vous. Donc du coup, on a lâché les individus sans leur donner le moyen de compenser l'encadrement idéologique que le système leur donnait avant. Et donc du coup, ce débrouillez-vous pour grandir, c'est devenu sauf qui peut.
Ouais, il y avait une injonction à être soi-même, mais sans le mode d'emploi.
Exactement. Je peux pas être moi-même si j'ai pas tous ces moments où je réfléchis sur moi. Parce que il y a deux conceptions de rapport à ces outils-là. Il y a la conception freudienne qui dit c'est pour soigner, et il y a la conception jungienne qui dit non, c'est pour grandir. L'introspection, c'est pas un travail pour soigner les gens, c'est pas que ça, mais c'est aussi se donner les moyens de réfléchir sur soi, de se regarder, de se comprendre, et à ce moment-là, de produire sa propre idéologie. N'étant plus déterminé par une idéologie extérieure, ou en tout cas, on va dire pas explicite, parce qu'il y a quand même une grosse idéologie avec la finance et tout ça, on est sommé de produire sa propre idéologie. Le coaching est arrivé, mais pour moi, le coaching est une très mauvaise réponse à un grave problème. Parce que si le coaching est bien un outil qui permet individuellement de dénouer des choses, collectivement, on ne peut pas multiplier les séances de coaching pour répondre aux besoins de chacun des managers. Il y a un manque de collectif, et je pense que justement, encore une fois, comme dit Yves Clos, la vraie souffrance, elle est dans la disparition des collectifs. La supervision a cette fonction à la fois de réintroduire du collectif là où ça manque. Dans le management intermédiaire, il y a des souffrances extraordinaires à cause du manque de collectif, tout en mettant les personnes en situation de produire leur propre savoir, leur propre culture, leur propre idéologie, etc., etc., individuellement et collectivement. C'est les deux qui sont en travail. Donc à la fois, je professionnalise les gens, leur permettant d'acquérir la conscience, et en même temps, je remets du collectif là où ça manque terriblement.
Je me mets à la place d'un responsable d'entreprise. Il y a peut-être la crainte, ou alors c'est ma projection, de psychanalyser mes équipes, en tout cas les managers intermédiaires, et que, quelque part, ça puisse ouvrir la boîte de Pandore.
Ah, c'est exact. J'ai un exemple criant là-dessus. Ouais, parce que je travaillais dans un grand groupe qui était managé par un tyran, mais un vrai tyran. C'est le genre, il débarque à 5h du matin à l'atelier en engueulant tout le monde. Il y a des gens qui sortaient en pleurant de son bureau. Mais en même temps, il avait une connaissance tellement extraordinaire de ce qui était produit qu'il était incontournable. Et il a embauché un DRH que je connaissais par ailleurs, qui m'a dit « ça souffre, hein, c'est dur pour eux, donc ça serait bien qu'on mette en base des groupes d'analyse de pratique ». Le patron, lui, il s'est pas préoccupé de savoir ce qu'on faisait, il s'en foutait. Et au bout de 6 ans, il s'est créé quelque chose de l'ordre du collectif chez les managers, qui sont allés le voir lui disant « tu sais, ça serait bien, on en discutait dans les groupes d'analyse de pratique, ça serait bien que tu nous écoutes un peu ». La conséquence, c'est que le lendemain, j'ai été viré le DRH aussi. Le risque, il est là. C'est-à-dire que si je mets mon collectif de managers dans la possibilité de répondre de ses actes, je les rends responsables. Mais à ce moment-là, il faut que je sois capable d'entendre ce qu'ils me disent. Dans le livre du général Desportes sur le management de l'incertitude, il m'a rappelé la remarque d'un général de l'armée prussienne qui disait à son capitaine « Je t'ai embauché pour que tu saches quand désobéir ». Et ça, pour moi, c'est central. C'est-à-dire qu'effectivement, les injonctions qui descendent du haut, qui sont construites sur des critères de finance, stratégie, c'est tout à fait respectable. Mais ça doit être relativisé par la nécessité du travail, de ne pas mettre les gens en danger. Donc la fonction du manager intermédiaire, c'est aussi d'être capable de dire non quand il y a un vrai danger. Très souvent, dans les entreprises, on considère que le management intermédiaire, c'est juste un rouage. Rouage de transmission du pouvoir, au lieu de lui donner sa vraie mission, qui est d'être le garant de la sécurité des gens et de la durabilité du travail, hein, tout simplement.
Donc là, tu m'as donné un exemple où, finalement, le dirigeant s'est senti dépossédé d'une certaine manière de sa puissance. Mais est-ce que tu as eu des exemples d'entreprises qui potentiellement étaient réticentes de peur de faire entrer le champ de la psychanalyse ou en tout cas d'une certaine réflexivité sur soi-même et sur la pratique, donc, dans le champ de l'entreprise qui est quand même en général un peu hermétique à l'approche psychanalytique qui est plutôt dans le domaine de la sphère privée?
Il y a plusieurs verrous qui empêchent ça. Le premier, c'est celui que j'énonce moi, c'est-à-dire que je ne suis pas psychanalyste. Je pense que le discours psychanalytique, c'est un discours de l'intime, et que tous les gens, et j'en ai connu, hein, parce que la socio-analyse a essayé un moment de faire ça, qui ont essayé de mettre dans le champ social les outils de l'individu, ça a été des catastrophes. Je pose ça, c'est-à-dire je ne suis pas psychanalyste, la psychanalyse c'est dans le privé, nous on est dans le travail, et donc ce sur quoi on va travailler, c'est sur la relation que la personne entretient à son travail. La manière dont elle décide du sens de ce qu'elle fait, la manière dont elle prend des décisions d'action, etc. C'est ça qui va être notre objet de travail. Le deuxième verrou, il est tout simplement au niveau des individus. C'est-à-dire que lorsque vous avez ces groupes-là, la première chose qu'ils font, c'est de vérifier que vous n'êtes pas en train de les embarquer dans ce qu'ils appellent les psychopapouilles. Je pense qu'en une demi-journée, ils ont compris qu'on n'était pas du tout sur le champ des psychopapouilles et que c'était absolument pas mon choix. Moi, c'est plutôt la confrontation sur comment je me présente mon travail.
Mais est-ce que tu as eu ce type d'appréhension, ce type d'échange avec des dirigeants qui se disaient « mais est-ce que c'est pas dangereux de faire ce type de travail collectif ?»
Soit on a un manager qui dit, oh là, c'est pas à moi de décider à leur place, apprends-les à redécider. Donc, ok, du coup, on peut y aller. Donc, on le dépossède, mais il est content qu'on le dépossède. Soit il a très peur qu'on le dépossède, auquel cas, il va pas y aller facilement. Le jour où le dirigeant comprend que son job, c'est pas de savoir la place des autres, et qu'il peut se centrer sur son rôle à lui, qui est justement de créer de la cohésion d'ensemble, faire que les gens soient heureux au travail, tout et tout, bah, il a assez à faire avec ça pour pas contrôler le travail. Donc, globalement, l'intérêt de cette chose-là, c'est qu'on crée les conditions pour que les opérateurs de terrain et leur management soient capables de revendiquer la légitimité à décider. C'est ça qui est important. Parce qu'en réalité, dans les entreprises teulériennes, on est pris dans une contradiction systémique. C'est-à-dire que le dirigeant dit « vous n'avez pas à savoir, donc c'est moi qui pense ». Et l'opérationnel dit « bah, j'ai pas le droit de penser, donc je prends pas la responsabilité, donc j'attends que le chef me dise ». Et pour débloquer ce système-là, il faut faire bouger les deux parties en même temps. Il faut à la fois dire à l'opérateur « tu peux prendre des responsabilités », et dire au patron « il peut avoir des idées, il a le droit, c'est pas dangereux ». Il faut que les deux avancent en même temps. Et j'ai souvent vécu ça dans les mécanismes d'entreprise libérée. Un patron qui veut absolument libérer ses ouvriers, qui en a rien à foutre, que c'est pas leur problème, ce qu'ils veulent, c'est la paye à la fin du mois, alors je m'en fous. Ça marche pas. Et de la même manière, quand vous avez des ouvriers qui disent, en gros, on veut s'approprier notre travail, bah, si les directions veulent pas, ça marche pas. Donc, en fait, les entreprises sont dans un équilibre systémique qui ne peut pas se modifier en décidant un moment de changer un petit bout et pas l'autre.
Donc jusqu'ici, on a plutôt parlé de la supervision professionnelle pour les managers intermédiaires. Est-ce que c'est aussi mis en place pour les cadres dirigeants, voire les dirigeants d'entreprise ?
Le champ d'application, pour moi, là où c'est crucial, mais c'est crucial, vraiment gravement crucial, c'est le management intermédiaire. C'est-à-dire que déjà, si on arrive à avancer là-dessus, ça serait bien. Maintenant, il y a une autre question, c'est que au fond, ça marche bien à partir du moment où on peut créer de la cohésion et de la solidarité entre les participants. Et donc, qu'ils soient capables de s'entendre sans se juger, qu'ils soient capables d'être solidaires, de s'épauler, de se donner des coups de main, etc., etc.
Donc là, j'entends que potentiellement, plus on monte, plus il y a de la rivalité, c'est ça ?
Et c'est impossible.
Ou alors, il faut que ça soit inter-entreprise, du coup, éventuellement, et pas avec des concurrents.
Là, on tombe sur une autre problématique qui est plus complexe. Le management, c'est une source de pathologie psychologique assez grave. C'est une source de psychose, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait, les top managers sont dans une espèce de croyance de leur perfection idéale. Tout ce qui pourrait venir les amener à questionner là est trop dangereux. Donc en fait, ils veulent pas.
Est-ce à dire qu'il serait préférable dans ce cas-là qu'ils aient une supervision individuelle ?
Complètement. Et choisie. Ça suppose un travail complètement personnel, individuel et presque caché, en quelque sorte. Parce qu'ils veulent pas que ça se sache. Donc ça, pour moi, on sort du champ de ma préoccupation qui est de dire qu'est-ce qu'il faut instituer comme méthodologie pour faire avancer l'entreprise. Et moi, je dis, il faut pas instituer la psychanalyse. C'est une erreur catastrophique. Il faut instituer des méthodologies type groupe de coprofessionnalisation pour que l'entreprise se régule mieux.
Bon, alors depuis le début, ce qui émerge, c'est que c'est quand même relativement incontournable de mettre en place des groupes de supervision professionnelle. Donc pourquoi il n'y en a pas plus ?
D'abord, il y a l'aspect culturel, c'est-à-dire c'est pas dans l'histoire. Jusqu'à cette période où on a dit aux gens « sauf qui peut, débrouille-toi hein, », le management intermédiaire était un rouage à la merci d'eux, c'était la main du maître. Du coup, il fallait surtout pas qu'ils réfléchissent. Et puis, on a inventé le concept de management, mais pas la pratique. Le concept de management a 30 ans d'avance sur la pratique, il y a encore la majorité d'entreprises où le manager commande par son expertise technique. Il y a quelques entreprises qui se sont hasardées pour tenter de voir qu'est-ce qui se passe si je mets en management intermédiaire des gens qui connaissent pas le métier, en disant ce qui compte c'est la relation. Et en fait, on va se heurter à une très très grosse difficulté, c'est que les équipes ne supportent pas, ou en tout cas très difficilement, que celui qui les encadre n'ait aucune connaissance du métier. Il faut qu'il y ait un minimum de connaissances, parce que sinon il peut pas être ressource.
Il peut pas être légitime.
Et il n'est pas légitime. Voilà. Donc la légitimité technique est nécessaire, même s'il y a aussi une capacité à avoir des relations, une capacité à créer de la cohésion d'équipe, d'être à l'écoute, etc. etc.
D'ailleurs, ce n'est pas les mêmes compétences. Il y a des personnes qui peuvent être des experts absolus de leur profession et absolument pas capables d'avoir une interaction. C'est vraiment deux compétences différentes.
Tout à fait. Et d'ailleurs, un de mes premiers clients EDF, c'était un manager de terrain qui sortait de l'hôpital psychiatrique. Il avait fait un burn-out. En fait, c'était un super technicien. C'est un mec qui dépannait des cartes mères en 5 minutes. Vraiment un expert en tout. Et on lui a dit, bah, puisque t'es bon, bah, passe en management. Et donc, il s'est trouvé, alors qu'il était dans un environnement très purement logico-mathématique, scientifique, à avoir des relations avec des humains, quoi. Donc, de l'irrationnel, de l'incompréhensible, de l'inconscient. Et il a pas su faire. Il pensait que ses compétences techniques lui permettraient de manager des hommes, mais pas du tout. Ce qui compte, c'est la relation de management intermédiaire. Mais sans avoir un vernis culturel pour pouvoir au moins comprendre ce que disent les gens, c'est quand même assez difficile.
Ou alors il faut le former, mais ça peut prendre un certain temps.
Voilà.
Mais il faudra aussi gérer la frustration de ne plus être dans le faire.
Tout à fait. Et d'ailleurs, ça les angoisse très souvent. Ils reviennent au terrain parce qu'ils angoissent.
Alors ce qui me vient aussi, c'est que ça semble tellement important et utile, c'est à se demander pourquoi ça ne se développe pas plus.
Parce que c'est la même problématique que la formation en général. C'est qu'on est tellement dans le court terme, on est dans le sauf qui peut. L'idée que je défends, c'est qu'on aura énormément de mal à sortir de la crise parce que le travail n'est plus un terreau apprenant. Le travail n'est plus l'espace dans lequel je développe mes compétences. On est dans le sauf qui peut général, donc chacun essaie de voir comment il va finir le mois. C'est un peu comme la terre, quand vous mettez trop de produits pesticides, elle perd sa capacité à se régénérer et donc à nourrir les plantes. Et là, actuellement, le travail perd sa capacité à se régénérer. Si demain on sort de la crise, ça ne veut pas dire pour autant qu'on va pouvoir développer des compétences, accompagner les personnes à apprendre. Pas du tout. Je pense que l'état dans lequel ils travaillent en France ne permettra pas de repartir facilement. Ça repartira, mais pas facilement.
Alors, il y a aussi un élément que je voulais partager avec toi, c'est que nombreux sont les coachs qui ne sont pas supervisés. Ils sont confrontés à quel type de risque pour eux et pour leurs clients?
Alors, il y a plusieurs types de risques. D'abord, le risque, c'est de ne plus être reconnu par les professions, parce qu'en fait, nous, avec les organismes professionnels, on défend l'idée qu'on ne peut pas accréditer un coach qui n'est pas supervisé. Les seuls coachs qu'on a en supervision, c'est les coachs à qui les entreprises ont commencé à demander un certificat de supervision. Donc, premier risque, c'est ça, c'est qu'ils n'arrivent plus à travailler. Le deuxième risque, c'est le risque de la toute-puissance, c'est-à-dire que c'est tellement facile, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, de faire émerger des choses que vous avez l'impression d'être Dieu. Mais il y a aussi presque le risque inverse, c'est-à-dire, au fond, je suis pas bon. Mais c'est un peu comme pour le manager. La question n'est pas de savoir si t'es bon ou pas bon, c'est qu'est-ce que t'es en train de faire quand tu fais ce que tu fais. Le reste, on s'en fout, sans jugement, en quelque sorte.
Mais en même temps, il y a un nombre conséquent de coachs qui sont pas supervisés et qui se mettent en danger eux, mais du coup aussi leurs clients, par ricochet.
C'est au moins 80% des coachs qui sont pas supervisés, au minimum. Après, derrière, il y a une autre question, c'est parmi tous les gens qui se déclarent coachs, qui ont été formés au coaching, combien travaillent?
Combien en vivent?
D'abord, combien en vivent? C'est très peu, hein. On doit tourner autour de 10%. Bon, j'ai quand même plein de coachs qui font du coaching gratuitement. C'est quoi le coaching? Jusqu'où on peut appeler ça coaching? Et qui travaille vraiment? On a en gros 10% des coachs qui travaillent vraiment, et sur ces 10%, il doit y avoir une bonne partie qui est supervisée.
Est-ce que tu pourrais nous parler des formations de supervision? Est-ce qu'il y a vraiment une diversité à cet endroit-là, comme c'est le cas pour le coaching? Parce que pour le coaching, il y a pléthore de formations. Est-ce qu'il y en a autant pour la supervision?
Pas encore. Je pense que la supervision est en train de prendre exactement le même chemin que le coaching, c'est-à-dire que dans 15 ans, on sera tous superviseurs. Le mot coach aura fini son boulot, il se sera bien ridiculisé, on n'en parlera plus, mais on verra débarquer le mot superviseur. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut aussi profiter de cette vague-là pour développer la supervision des pratiques professionnelles, parce qu'effectivement, je pense que c'est une réponse bien plus adaptée aux problématiques de l'entreprise que ne peut l'être le coaching individuel, parce qu'on travaille à 10-12.
Tu vas pas faire plaisir à tout le monde en disant ça, hein?
Oui, mais ça, c'est ridicule.
Non, mais t'en as conscience.
Oui, mais c'est sûr, mais il y a d'autres choses qui font pas plaisir. Moi, je considérais que les coachs sont les nouveaux travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, ils pallient les vides que crée le système en laissant les individus face à eux-mêmes seuls, incapables de travailler sur leur propre idéologie. Donc, c'est les nouveaux travailleurs sociaux.
Avec des outils qui font que c'est un peu un cataplasme sur une jambe de bois, quand même.
De toute façon, bien sûr.
Comment tu travailles? Quels sont tes principes fondateurs? Quels sont les outils que tu utilises? Comment tu travailles concrètement?
En collectif, c'est très simple. J'ai donc un groupe dans lequel il y a entre 11, plus ou moins 3 personnes. Et en dessous de 8, c'est un peu léger. J'essaie de fonctionner en journée, si c'est pas possible en demi-journée, mais je préfère en journée, parce qu'on avance beaucoup plus vite en étant sur une journée. On demande à chacun de venir avec une problématique à travailler, c'est-à-dire quelque chose qu'ils sont en train de vivre, sur lequel ils se questionnent. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'y arrivent pas, c'est-à-dire qu'ils se posent des questions.
Il y a quelque chose qui génère de la charge mentale.
Oui, exactement. Et puis, qui est un sujet à réflexion. Le travail qu'on fait, c'est un travail en 4 étapes. Étape 1, c'est l'espace problème, c'est-à-dire qu'on prend la problématique de la personne et elle l'expose. La fonction du groupe dans cette étape-là, c'est uniquement de poser des questions pour avoir des éclaircissements. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire? À quel moment t'as fait ça? C'était avec qui?
C'est de la clarification.
Question de clarification, exactement. Et une fois qu'on a tous les éléments nécessaires pour comprendre la situation, on passe à un deuxième temps, que j'appelle l'espace diagnostique, dans lequel on va essayer de mettre des mots sur ce truc-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas un bon diagnostic. On peut faire un diagnostic financier, économique, social, technique, tout est bon. Chacun dit, ben moi je vois une problématique de ça, moi je vois une problématique de ceci, de cela. Et du coup, la personne qui a amené son cas se trouve avec la conscience d'un certain nombre de dimensions auxquelles il n'avait pas pensé. C'est-à-dire qu'on a transformé un vécu désagréable en quelque chose qui est organisé, structuré, multidimensionnel. Pour moi, je considère que quasiment tout le travail est fait une fois que c'est fait, parce que l'effet qu'on a eu, c'est de faire que la personne reparte avec une représentation différente de son problème. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas résoudre de problème, c'est pas qu'il n'avait pas la solution, c'est qu'il n'avait pas le problème. C'est pour ça que je mets souvent dans mes articles un petit dessin des Shadok qui dit « s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème ». Ça a fait rigoler tout le monde, mais c'est très important. Et à partir du moment où tu as problémé, bah vas-y, t'as pas besoin de moi, hein. C'est toi le technicien, c'est toi qui sais. Généralement, dans les supervisions de coach, je m'arrête là. Dans la supervision de coach, ce que je fais à ce moment-là, c'est un feedback sur ce qui s'est passé. Le travail se met sur le groupe et son fonctionnement.
Là, tu fais du méta.
Là, je fais du méta pur. J'ai pas envie de faire autre chose.
Et ça permet de clore la séquence.
C'est ça. Et surtout, de pas aller sur le terrain de « fais comme ça, ça va marcher ».
Oui, oui. Ça, c'est du conseil. On est ailleurs.
Par contre, dans l'entreprise, j'ai souvent eu des demandes « ah oui, mais je fais quoi à ce moment-là ?» Donc, du coup, j'ai un peu cédé, en quelque sorte. J'ai créé le troisième temps, qui est l'espace solution, dans lequel je dis aux personnes « je veux pas une solution, je veux savoir ». Quand vous avez vécu la même chose, qu'est-ce que vous avez fait? Que ça ait marché ou pas, c'est pas la question. Vous avez essayé quoi? Vous avez lu quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez demandé quoi à qui, etc. Juste donnez-moi de l'information sur comment vous avez abordé le problème. Ce que je vise, c'est que la personne qui a amené un problème reparte avec une vision multidimensionnelle de son problème, des ouvertures sur des portes. Et c'est souvent très, très intéressant de créer de la coopération entre les personnes.
S'il repart pas avec une ordonnance, il repart plutôt avec une invitation à explorer de différentes façons.
Exactement. Et puis surtout des interlocuteurs. C'est-à-dire que comme ils ont vécu une expérience en commun, il y a du lien qui s'est créé et donc il y a de la coopération qui se crée.
Et alors en quoi la supervision est préférable au mentoring, au tutorat, au co-développement par exemple?
Ma théorie à moi, c'est de dire que tout est analyse de pratique. Tout est les démarches qui amènent les personnes à prendre comme objet d'observation et de réflexion sa pratique de vie, ce qui fait comment ils se représentent ce qu'ils vivent. Donc là, on va faire entrer tout ça, ce que tu viens d'écrire là, coaching, supervision, mentorat, là-dedans. À l'intérieur de ça, il y a différentes modalités et chacune des modalités va servir une intention particulière. La vraie question pour moi, c'est sommes-nous d'accord sur au service de quelle intention correspond telle modalité? Déjà, un premier travail à faire avec le donneur d'ordre sur c'est quoi son besoin. Lorsqu'un DRH me dit « viens me faire un petit coup de codev parce que les gens sont pas heureux », est-ce que c'est fait pour rendre les gens heureux? Pourquoi tu chercherais à faire ça, etc. Et à ce moment-là, mon travail à moi d'expert dans le métier, c'est de dire non, pour ce que tu as là, ce que tu as besoin, ce n'est pas du co-développement. Tu as une crise, ils n'arrivent pas à prendre des décisions ensemble, il y a des conflits, et le développement, ça ne va servir à rien du tout. Ce que font généralement les coachs, c'est de prendre le marché et puis de tourner l'outil pour lui faire faire autre chose que ce pour quoi il est fait. Et c'est là où on commence à rentrer dans le risque. Tous les gens en supervision qui font des développements disent « ouais, non, mais je connais l'outil, mais je ne fais pas pareil, je change ci, je change ça ». C'est très dangereux, c'est très très dangereux. Alors maintenant, on peut avoir des grandes catégories. C'est-à-dire, on peut dire le mentorat, c'est amener une personne à prendre conscience des éléments culturels de l'entreprise dans laquelle il rentre, de façon à perdre le moins possible de temps pour s'intégrer. Il y a des pratiques culturelles non conscientes dans l'entreprise qui sont des indicateurs de qualité du travail, en quelque sorte. Il y a un genre de la maison, comme disait Yves Clos, une expression que j'aime bien. Lorsqu'un nouveau arrive, tant qu'il ne connaît pas le genre de la maison, c'est-à-dire tous des indicateurs non conscients, non explicites, non dits, il y a toutes les chances pour qu'il ne soit pas dans le ton de la maison. Donc la fonction du mentor, c'est ça, c'est de permettre au nouvel arrivant de comprendre son environnement géographique, culturel, technique, etc., etc. Donc il a aussi une expertise technique à avoir, mais il n'a pas comme fonction, contrairement au tuteur, de faire progresser la personne d'un point de vue technique. Le coach, c'est forcément un agent extérieur. Pour moi, coach interne, c'est une absurdité, donc on ne va pas en parler. Après, il y a plein d'outils comme Codev qui ont des fonctions très spécifiques pour lesquelles il est besoin, dans chaque cas particulier, de vérifier que c'est ça dont il est question.
Quels sont les métiers ou les professions qui peuvent bénéficier d'une supervision ou qui gagneraient à bénéficier d'une supervision professionnelle?
Alors, je ne sais pas si c'est une question de profession ou de métier. Je pense que plus le métier est artistique, plus il suppose l'implication de la personne. Parce que pour moi, le coaching est un art et le management est un art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais agir avec ma personnalité, avec qui je suis. Hein, contrairement à l'ouvrier sur sa machine qui fait des boulons toute la journée, ce n'est pas un métier artistique. Par contre, dès que vous avez des métiers dans lesquels la personne est impliquée, donc le management, mais ça peut être aussi le pilotage des machines industrielles complexes. Donc à partir du moment où l'outil du travail, c'est la personne, la seule manière de se professionnaliser, c'est de se prendre comme objet de travail, objet de réflexion.
Avec la tertiarisation de la société depuis quelques décennies, ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup de métiers où potentiellement ça serait utile.
Bien sûr, bien sûr. Et alors, dans les démarches d'entreprise apprenante, il y a une institutionnalisation de cette modalité de supervision. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée d'amener les collectifs à prendre comme objet de travail leur propre pratique, c'est une idée qu'on va trouver aussi dans l'entreprise apprenante et qui est une des principales sources du développement des entreprises.
S'il fallait résumer, qu'est-ce que le professionnel supervisé va gagner dans cette supervision professionnelle?
Moi, je dirais déjà en sécurité, parce qu'il est en situation d'aller apporter ses interrogations, ses angoisses, ses limites, et d'y trouver des questions qu'il ne s'était pas posées. La deuxième chose qu'il va trouver qui est très importante pour moi, c'est le professionnalisme. C'est-à-dire qu'en fait, il va être dans un espace dans lequel il va élaborer un discours sur sa pratique et donc une certaine conscience de ce qu'il fait. Dans la confrontation avec ses pairs, il va pouvoir vérifier son cadre en quelque sorte. Ah, si personne pense comme lui, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Bon, ça peut être intéressant d'avoir le regard des autres. Ça va l'amener à travailler sur son identité. La professionnalité d'une personne, hein, un concept de Witorski que j'aime bien, c'est le contenu et le contour de sa profession. Ma professionnalité, c'est la limite que je me donne, ou que je crois que j'ai, ou que les autres me donnent, et en même temps, tous les outils qui sont à l'intérieur de cette limite. Alors, il y a deux niveaux d'identité. Il y a l'identité personnelle, mais il y a aussi l'identité collective. C'est-à-dire que lorsqu'on amène un groupe de managers d'une entreprise à travailler sur la culture de la maison, par l'analyse de pratique, eh bien, ils construisent une identité culturelle collective. Et c'est un grand bénéfice pour l'entreprise.
Alors, comment cette pratique de la supervision professionnelle peut faire évoluer la place des coachs en entreprise ?
Ah, c'est une bonne question. Ma théorie, c'est de dire que le coaching est une mauvaise réponse à un vrai problème qui est d'amener les personnes à se prendre comme objet de travail avec une dimension collective. Donc je pense qu'en développant une grande population de coachs formés à l'analyse de pratique, alors groupe de copro ou autre chose, je pense qu'on va pouvoir mettre à la disposition des entreprises un volant d'experts dans l'accompagnement qui vont pouvoir contribuer à développer cette culture interne, cette conscience collective et individuelle de ce que c'est que le travail, quoi.
Donc en portant différentes formes qui pourront plus ou moins jouer le rôle de la supervision professionnelle.
Exactement. En fait, la supervision professionnelle est en train d'occuper une partie du terrain qui est phagocytée par la formation. En France, on pense toujours formation, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qui va expliquer à quelqu'un qui ne sait pas. Ça, c'est fini. Pour moi, l'erreur qu'on fait, c'est de confondre initiation et apprentissage. L'école, c'est un espace d'initiation. C'est-à-dire comment je prends ce qui a été utilisé en initiation et je l'intègre par la pratique. Cette distinction initiation-apprentissage, elle est nécessaire pour comprendre que la formation, dans le sens traditionnel du terme, n'a qu'une fonction d'initiation, mais qui ne fait pas apprendre. Combien de patrons disent « mais ces gamins, ils sortent de l'école, ils ne savent rien faire ». L'école n'est pas un lieu d'apprentissage, l'école est un lieu d'initiation.
Quel est le rôle des organisations professionnelles face à cette évolution ? Autrement dit, faut-il rejeter ou encadrer cette évolution de la supervision professionnelle ?
C'est une question extrêmement importante, c'est l'objet de débats dans les organismes professionnels. Parce qu'en fait, on a deux solutions. La première solution, souvent choisie par les plus installés, on va dire, dans le métier, c'est de dire, la supervision, c'est pour les coachs, tout le reste, c'est des sous-produits, ça ne nous intéresse pas, c'est pas du boulot. Ce qui est complètement idiot, à mon avis. L'autre solution, c'est de dire, ça fait partie des évolutions du métier. Le métier se décline, il n'arrête pas d'évoluer, changer, etc. Et notre travail, c'est de mettre un cadre là-dedans. C'est-à-dire, c'est d'essayer d'aller voir de quoi ça parle, quels sont les risques, quels sont les dangers, et proposer aux professionnels de ces métiers-là un espace dans lequel ils peuvent réfléchir leurs pratiques et en même temps se sécuriser, encore une fois, par rapport à ce qu'ils font. C'est-à-dire que vous avez plein de gens qui sont extrêmement enthousiastes parce qu'ils ont fait 2 jours sur le co-développement et du coup, ils se mettent à faire ça, ils font n'importe quoi. Je pense que les organismes professionnels ont cette fonction d'aller mettre de la lumière partout où c'est nécessaire.
Alors, découvrons, Denis, la chanson que tu as choisie pour faire un intermède à notre entretien.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun.
Alors il s'agit bien sûr de la chanson The Fool on the Hill du groupe britannique Les Beatles, paru en 1967 sur l'album Magical Mystery Tour. Pourquoi as-tu choisi cette chanson, Denis ?
Quand j'étais plus jeune, c'est une chanson qui m'avait beaucoup touché parce que je me sentais un petit peu comme cet idiot sur la colline. J'avais l'impression de ne pas être de cette planète, quoi. C'est un peu l'imbécile, l'idiot qui dit des choses que personne ne comprend. J'avais lu une définition du mot idiot que j'aime bien, c'est qui ne se laisse pas comprendre. Ça laisse la porte ouverte aussi que c'est pas parce que c'est idiot, c'est parce que juste on comprend pas.
Cette chanson, c'est une véritable déclaration sur la non-conformité, les préjugés et la véritable intelligence. Et d'ailleurs, plus spécifiquement, elle évoque la solitude d'un homme, incompris par ses contemporains, mais qui, du haut de sa colline, semble trouver du bonheur dans la contemplation du monde. Du coup, je me suis demandé, à travers ce choix musical, faut-il comprendre que le superviseur serait un sage incompris ?
Je peux pas parler à la place de tous les superviseurs. En tout cas, ça c'est ma position à moi, mais presque naturellement, quoi. Je suis comme ça depuis toujours. Quand je suis dans les pratiques de supervision, je suis un peu dans cette espèce d'extériorité. Et donc avec une vue globale qui me permet d'avoir un regard différent de celui qui est dans la situation. Parce que quand on est dans le guidon, on voit pas les pédales, quoi, en quelque sorte. Donc moi, le fait d'être à l'extérieur me donne une vision plus globale. Donc c'est un peu cette position-là dans laquelle je suis, en fait, depuis toujours.
Tu parles pas trop de toi, hein, quand même. Le choix musical, c'est l'occasion de parler un peu de soi. Il y a une certaine pudeur ou...
Non, c'est pas intéressant.
Pourquoi c'est pas intéressant?
Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du métier, moi, qui est important.
Je suis pas d'accord, Denis, parce que je pense qu'à travers la singularité, l'histoire de l'humain, on touche l'universel, quand même.
Ah oui, que certainement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a pas vraiment grand-chose à raconter, hein. Sinon que je suis un pur produit d'échec scolaire. Ma position dans la société, d'une manière générale, mais depuis toujours, c'est une position en extériorité, je suis pas un acteur forcené, quoi, si tu veux. Et en fait, elle est née dans une situation d'enfance qui était assez difficile, puisque je suis de famille juive en Afrique du Nord, dans un moment où il y avait des conflits avec la Palestine, de parents militants communistes, un moment où le Parti communiste était interdit. J'ai été très en rupture avec l'école, parce qu'en fait, je me rendais compte à quel point mes enseignants, c'était vraiment des imbéciles. Ça m'a conduit à l'échec scolaire, parce que je me suis fait virer de l'école en 4e ou 3e. Puis je me suis trouvé à faire un CAP d'ébéniste, mais je n'étais pas du tout un bon manuel. Ce détour m'a été extrêmement profitable, parce qu'en réalité, ça m'a permis à la fois de m'expérimenter au monde d'une manière inhabituelle, c'est-à-dire le travail manuel, tant que fils d'intellectuel et intellectuel moi-même, c'était n'importe quoi. Jamais autant souffert. Et en même temps, ça m'a ouvert sur des démarches spirituelles. Je me suis retrouvé avec à la fois une expérience de la vraie vie, et en même temps... un bagage intellectuel que j'ai construit au CNAM, et en même temps, cette démarche spirituelle. Donc si tu veux, j'ai une sorte d'équilibre à l'intérieur entre l'intellect, la pratique de vie, les arts martiaux, la méditation. Il y a une cohérence d'ensemble entre ce que j'expérimente avec mon corps et ce dont je suis capable de parler.
Ce que j'entends aussi, c'est que tu as fait du méta très tôt. Tu étais sur la colline très tôt.
Ouais, j'étais sur la colline très tôt. Oui. D'ailleurs, on habitait au-dessus de Tunis, sur une colline, effectivement. Ouais.
Quelles sont les qualités qui font un bon coach selon toi et un bon superviseur? Alors commençons par le coach.
La première qualité du coach, c'est sa naïveté. C'est-à-dire que c'est l'effort qu'il fait à comprendre que, a priori, il n'a pas entendu ce que dit son client comme son client le comprend. Je dis toujours dans mes formations, la problématique du coach, mais c'est aussi vrai pour le superviseur, c'est la problématique de l'ethnologue. C'est-à-dire qu'il est dans un paradoxe qui est absolument sans solution. C'est-à-dire que il faut que je fasse l'effort de comprendre l'autre, mais pour comprendre l'autre, il faut que j'utilise mon modèle du monde. Et donc, mon modèle du monde va influencer ma manière de comprendre l'autre. Et donc, je crois que je comprends l'autre, mais je ne fais qu'appliquer mon modèle du monde sur l'autre. Donc, il y a un énorme travail à faire pour défaire cette espèce de manière de donner du sens à l'autre avec son propre modèle du monde, et donc à ne jamais parler que de soi.
Déjà reformulé, hein.
Déjà, alors c'est tout ce travail de reformulation. Ce que je dis toujours, c'est on ne parle jamais que de soi, mais parce qu'on ne pourrait pas parler d'ailleurs. La seule manière d'y arriver, c'est de multiplier les interactions et de laisser l'autre exister, se laisser inviter chez l'autre. Derrière ça, il y a une autre capacité, c'est la capacité à se taire. Un coach qui parle plus de 10% du temps de la séance, c'est qu'il ne fait pas son boulot.
Il se rassure, mais il n'aide pas le client.
Exactement.
Et un bon superviseur, alors?
Dans la mesure où un superviseur, c'est aussi un professionnel du métier de son client, il peut s'autoriser à certains moments à faire appel à son propre modèle du monde pour contredire son client. C'est un peu la limite de tout ça, c'est-à-dire que... À la fois, il faut que je sois capable de faire abstraction de mon modèle du monde, mais à la fois, il est quand même là et il me sert et il va servir mon client.
Un point commun entre le coach et le superviseur, c'est la nécessité de se former en permanence, la nécessité d'être curieux intellectuellement, et pas que d'ailleurs, mais de se nourrir de plein de choses pour avoir des antennes à plein d'endroits et être vraiment connecté à l'inconscient collectif du monde.
Absolument. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on exige que les superviseurs soient eux-mêmes supervisés, parce que c'est un outil de professionnalisation continue, et il ne peut pas y échapper.
Donc il y a quand même cette nécessité de rester connecté et actif intellectuellement.
Complètement.
Une fois qu'on a le diplôme, c'est quand même juste le début, quoi.
Le problème du diplôme, c'est qu'il nous donne une légitimité par rapport à la profession. Ça donne à mon client l'information que j'appartiens à un collectif, et donc que derrière, il y a du contrôle, il y a de la sécurité.
Alors, quelle est ta vision du coaching et de son évolution récente, et éventuellement, ce qui t'étonne le plus?
Moi, j'ai commencé le coaching dans les années 90, où c'était à la fois un peu confidentiel et très élitiste, où c'était très cher, et où on était très très peu sur le marché, et où il n'y avait absolument pas besoin de faire de démarchage, parce qu'il n'y avait personne. Et puis, la crise aidant, Pôle emploi poussant les gens à se former et à quitter ses services, On a vu se développer une masse énorme de gens formés au coaching et qui ont en fait banalisé le métier, à la fois banalisé et à la fois paupérisé. Et lié à ça aussi, même si ça peut paraître sexiste, mais c'est vrai, féminisé. Au tout début, les coachs, c'était essentiellement des hommes qui venaient avec leur tête d'HEC de premier de la classe et voilà. Et puis, ça s'est féminisé dans le sens aussi où ça s'adresse plus seulement au masculin du client. On est dans le féminin, c'est-à-dire dans le cœur, dans l'émotion, etc. Ce phénomène-là, c'est-à-dire une banalisation, une paupérisation, une féminisation du métier, qui fait qu'en fait, on va travailler sur des champs complètement différents du coaching originel de Vincent Lénard, qui était vraiment spirituel ou intellectuel, je veux dire. Donc le marché du coaching, c'est un marché qui fait un bruit énorme, dans lequel on ne peut pas identifier les gens qui font du bon boulot, il y a trop de bruit, en quelque sorte. Et alors en même temps, ça s'est institué, c'est-à-dire qu'en fait, c'est devenu un objet de régulation de la société, mais à mon avis, dans une mauvaise compréhension. Parce qu'en réalité, le coaching ne répond pas à l'essentiel des problématiques individuelles. En fait, ça devrait être utilisé à dose homéopathique, le coaching. Ça va concerner des top dirigeants qui ont besoin de travailler sur eux et tout. Mais plus on descend dans l'échelle sociale, plus il faut être sur des dimensions collectives et d'accompagnement type supervision.
Alors justement, s'agissant de l'évolution de la supervision, quel est ton regard ?
Si je suis un peu négatif, je dis que j'ai l'impression que la supervision est en train de prendre le même chemin que le coaching, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on n'est plus coach, on est superviseur, tout le monde dit ça, c'est-à-dire plus ou moins n'importe quoi.
Là aussi, tu vas te faire des amis, hein ?
Ouais, je suis.
Tu risques d'être seul sur ta colline.
Oui, oui, mais c'est pas la supervision qui est n'importe quoi, c'est l'usage qu'on en fait. Tant que les superviseurs ne sont pas eux-mêmes supervisés et dans un organisme professionnel qui les encadre, je ne sais pas ce qu'ils font.
Il y a PCF, mais c'est sûr que tous les superviseurs n'adhèrent pas à PCF.
À l'EMCC, il y a aussi...
Oui, oui, bah dans toutes les instances représentatives, hein, que ce soit la SF Coach et ICF.
Oui, c'est ça.
Il y a un regard particulier sur ce métier émergent. Il reste émergent quand même, le métier de superviseur.
J'espère qu'il reste émergent, parce que s'il suit le même chemin de la banalisation, massification du coaching, je ne sais pas si ça sera une bonne chose. Peut-être qu'au fond, si on sait encadrer cette banalisation de ce métier, oui, pourquoi pas.
Donc ça veut dire que les instances représentatives, elles ont tout intérêt à être en avance de phase.
Absolument.
C'est-à-dire à trouver des moyens dès maintenant de garantir la professionnalisation de la supervision, y compris supervision professionnelle.
Absolument.
Donc il y a du boulot.
Il y a beaucoup de boulot, oui, bien sûr.
Alors quelles sont les difficultés récurrentes auxquelles sont confrontés les coachs que tu supervises ou les professionnels que tu supervises ? Alors commençons par les coachs peut-être, si t'es OK.
La difficulté du coach, c'est de trouver des clients. C'est-à-dire qu'en fait, il a beaucoup de mal à se faire reconnaître par son éventuel client. Que souvent, le client demande quelque chose, mais c'est pas ça du tout dont il a besoin.
C'est la demande officielle. Il faut gratter, quoi.
Voilà. Le problème, c'est est-ce que le client veut bien gratter ? Et là, on est souvent dans des situations extrêmement difficiles. Une coach là, avec qui je travaillais sur le fait que derrière la demande officielle de coaching, il y avait une demande sexuelle, on va dire. Le père voulait que son fils travaille à l'entreprise, donc il voulait que la coach le motive pour travailler à l'entreprise.
Il a confondu coaching et escorting, quoi.
Mais c'est pas conscient.
C'est tout le problème de la demande sous-jacente, hein, c'est qu'elle est rarement consciente.
Le problème, c'est qu'elle est souvent pas consciente chez le coach. Il arrive avec un matériau en se disant « je sais pas ce qui est en train de se passer ». On arrive à décoder des sous-entendus, des non-dits. C'est pas seulement non-dit, c'est impensé. C'est pas que la personne le sait et qu'elle le dit pas. C'est qu'elle s'en rend pas compte elle-même, quoi. Il est souvent pris dans des enjeux comme ça, dans lesquels la sphère affective a sa place. Donc c'est souvent ça qui est très difficile pour le coach, c'est d'arriver à trouver des clients et faire le tri entre la demande qui est une demande réelle et puis les enjeux qui sont plus ou moins inconscients et impensés, surtout très impensés par le client.
Dans cette configuration-là, ça rend vraiment indispensable la supervision.
Ah, complètement. Le travail du superviseur, là, c'est quand même d'alerter le coach sur qu'est-ce qui est en train de se passer, comment t'avances, quel contrat tu passes avec qui, etc.
Mais il y a aussi la question de l'ADN, de sa pratique.
Ah, complètement. C'est mon identité professionnelle, bien sûr. C'est une question permanente.
Dans le cadre d'une supervision professionnelle, c'est quoi les thèmes qui reviennent de manière assez classique ?
La difficulté du manager intermédiaire, c'est d'être justement à l'interface de critères qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ce que je disais tout à l'heure. Être manager de terrain, il s'agit de faire rentrer un carré dans un rond. C'est-à-dire qu'en fait, le carré, c'est quoi ? C'est la pensée rationnelle du patron. Et le rond, c'est le travail. C'est l'humain, c'est la nature. Et donc, le manager de terrain doit faire qu'il reste en cohérence des ronds et des carrés. Donc, c'est un métier extrêmement difficile parce qu'en fait, il réussit jamais. Et en plus de ça, il a souvent une idée fausse de ce qu'est son travail. Ses critères de travail bien fait à lui ne portent pas forcément sur ce qu'il fait vraiment. Et donc du coup, il ne sait pas ce qu'il fait et il ne fait pas ce qu'il croit qu'il doit faire. Il est dans une espèce de difficulté identitaire très très importante. Le travail de coaching aussi, mais de supervision, c'est beaucoup d'amener ces collectifs à comprendre quelle est leur vraie mission et comment ils la remplissent. souvent les managers en disant « moi, je n'ai pas besoin de supervision, je suis un super manager, les gars m'adorent ». L'autre extrême, c'est le gars qui dit « moi, de toute façon, je suis nul, pourquoi tu veux que je vienne, de toute façon, je suis nul ». La question n'est pas de savoir s'ils sont nuls ou parfaits, c'est qu'est-ce qu'ils font vraiment quand ils font ce qu'ils font et est-ce que c'est au service de leur mission. Le reste, on s'en fiche.
Alors, est-ce que tu aurais des cas de supervision professionnelle emblématique à partager ?
Rien que j'aime bien, parce qu'il illustre parfaitement bien la question de la nécessité d'un travail collectif dans une entreprise. Je travaillais avec un groupe, c'était de l'habitat social. J'ai un manager qui arrive en disant « Je me suis engueulé avec la secrétaire de la DRH. Moi, je comprends pas, on m'avait demandé d'envoyer un dossier, je l'ai envoyé à qui de droit ? Et alors maintenant, ça me revient dans la figure. » Et je vois mes 12 autres gars qui disent « Ah ben nous, c'est pareil !» Et alors, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, ils prennent le téléphone, « Attends, faut voir le dossier, il fallait envoyer un machin. » Et en fait, le fameux machin qui devait recevoir le dossier, il était à un mois de la retraite, il avait tout laissé dans un coin, il était parti à la pêche. Du coup, quelqu'un n'avait pas fait son boulot, mais qui était aucune des 12 personnes qui étaient dans la salle. Chacun venait avec un sentiment d'avoir échoué. Alors qu'en fait, le problème n'était pas individuel, mais c'était un problème organisationnel. Ce que les managers ont souvent beaucoup de mal à comprendre, c'est que c'est pas qu'ils ont des problèmes, c'est qu'ils portent des problèmes organisationnels. Et c'est extrêmement différent, parce que tant qu'ils pensent qu'eux, ils ont un problème, on ne peut pas avancer. Le jour où ils comprennent que leur job, c'est de porter des problèmes organisationnels, des paradoxes, des contradictions, on peut commencer à avancer. Donc, si on n'avait pas eu les 12 managers-là, qui ont vécu la même chose, on n'aurait pas pu dénouer ce truc-là comme ça.
Alors, un autre exemple.
Ah, il y en a un autre que j'aime bien. J'ai eu un manager un jour, il me dit « Ouais, j'ai un chef d'équipe, là, faut que je m'en débarrasse, parce que c'est pas possible, il bosse pas bien, il y a des conflits dans son équipe, ça va pas son équipe, et tout, je sais pas quoi faire, et tout, et tout. » Il nous fait un schéma assez classique avec son boss à lui, donc N+2, lui N+1, puis le chef d'équipe, et puis tous les autres chefs d'équipe. Alors, il me dit « Tous les autres vont très bien, je comprends pas pourquoi, lui, ça va pas bien, il connaît pas bien son boulot, pourtant, jusqu'à là, il n'a pas posé de problème, je comprends pas. » Alors je lui dis, tu peux expliquer qui agit, qui est là, qui est quoi et tout. Alors il me dit, bah voilà, lui donc il a une équipe de gens qui sont en expertise sur la règle institutionnelle et tout. Et tout. Et puis incidemment comme ça, il me dit, mon N+1 à moi, comme c'est un ancien de l'équipe, il vient tout le temps leur expliquer des trucs. Je lui dis, alors qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, ouais, moi je suis un peu embêté parce qu'en fait, il connaît plus trop le boulot, la loi a changé. Du coup, les gars, ils font semblant de l'écouter, mais ils l'écoutent pas. Ils court-circuitent, donc mon fameux manager dont je veux me débarrasser. Tout ce qu'il me raconte là, c'est parce que je lui ai posé la question. Il venait avec l'idée qu'il faut que se débarrasse son manager. Ce qui m'introduit, c'est que vient dans le jeu quelqu'un qui n'a pas sa place. Et je lui dis, mais attends, ton N+1 à toi, tu lui dis quoi? Elle lui dit, oh, mais attends, je peux rien lui dire parce que c'est lui qui m'a fait monter d'une certaine loyauté. Ce qui est intéressant, c'est que le travail de supervision, c'est de faire ce que moi j'appelle un dézoomage systémique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde un problème, par effet tunnel ou par effet zoom, je me centre sur le problème. C'est-à-dire je vois mon manager et son équipe. Mais pour pouvoir comprendre ce qui se passe vraiment, il faut que je dézoome pour prendre du recul et prendre en compte l'ensemble de la situation. Donc sans dézoomage systémique, c'est très très difficile de traiter des vrais problèmes. Et donc l'idée, c'était vraiment de dire, ah, son N+1 à lui, lâche-les un peu, quoi. Ce qui est intéressant par rapport à ce cas-là, c'est que c'est pas que mon participant le savait pas, c'est qu'il n'en avait pas conscience. Il savait, mais ça n'était pas dans la boucle. Donc l'intérêt du questionnement, c'est d'arriver à mettre dans la boucle les choses que la personne sait, mais qui ne sont pas actives.
Peut-être que N+2 avait une frustration de ne pas avoir les mains dans le cambouis, donc
absolument.
Il y revenait de temps en temps pour être encore en contact, quoi.
Ça, moi, je peux l'entendre, ça m'est égal. Mais le problème, c'est que mon participant, il vient avec l'idée de virer son manager. C'est ça qui va pas.
Alors, quel est le rôle des coachs dans la société en pleine mutation dans laquelle nous vivons, selon toi ?
On est abandonné, on est livré à nous-mêmes dans la nécessité de comprendre le sens de sa vie, puisqu'on n'est plus déterminé par une idéologie dominante. Et donc cette espèce de « débrouille-toi pour penser par toi-même » nous met devant la nécessité, à un moment, de s'arrêter d'avancer et de se poser des questions sur soi. Ce fameux geste d'époqué dont parlaient les Grecs, je m'arrête, je m'écoute, je commence à prendre comme objet de travail ce qui est en train de se passer pour moi pour essayer de le comprendre et pour situer dans une perception plus globale et plus générale du monde, en gros, construire sa spiritualité. Le problème, c'est que j'ai pas de temps institué pour faire ça. C'est pas tout à fait naturel de conduire un processus de réflexion sur soi. Il faut qu'il soit accompagné. La fonction du coach, c'est ça justement, c'est d'avoir les outils qui permettent d'accompagner un processus d'introspection qui permet de comprendre le sens de ce qui nous arrive.
Et quel est le rôle des superviseurs dans cette même société en pleine mutation ?
Le rôle des superviseurs, c'est d'accompagner en deuxième position les accompagnants. C'est-à-dire que lorsqu'on va former des managers ou des DRH à ces outils de l'accompagnement, c'est pour qu'eux-mêmes accompagnent leurs équipes. ils sont eux-mêmes en position d'accompagnant, comme les coachs ou les psychothérapeutes. Et donc, ils ont besoin d'avoir quelqu'un en deuxième position qui les aide à réfléchir.
Ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être des coachs qui voient mal l'apparition et la généralisation de la supervision professionnelle.
Les coachs sont tous tellement dans une espèce de sauve qui peut pour essayer de trouver des clients qu'ils ne se posent pas ce genre de questions. Je pense qu'ils ont tous compris plus ou moins qu'il fallait se former à la supervision des pratiques professionnelles pour avoir du boulot, quoi.
C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un côté pays de cocagne, c'est que pour l'instant, il n'y a pas tant que ça de superviseurs finalement formés, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de supervision, donc de manière arithmétique, elles ne peuvent pas former des centaines ou des centaines de superviseurs, comme c'est le cas pour les écoles de coaching qui se multiplient encore aujourd'hui.
Clairement, et c'est une catastrophe, parce qu'en fait, ils sortent tous les ans des milliers de coachs qui ne travailleront jamais.
Sauf si on considère qu'ils sont formés à l'approche coaching et qu'ils vont intégrer dans leur métier qui n'est pas le coaching, la posture.
La première caractéristique du coach, c'est de ne pas avoir d'enjeux. Ça veut dire que si je suis en position de manager, je ne peux pas coacher mes équipes, parce que j'ai des enjeux.
C'est un autre débat, mais le manager-coach, il croit pas, donc c'est même dangereux.
C'est une hérésie, c'est une imposture, le manager-coach.
Bah, va falloir peut-être le dire aux écoles de coaching, hein, parce que c'est ce qu'elles vendent, au fond.
Bah, ça, elles font ce qu'elles veulent. Hein.
Elles font ce qu'elles veulent, mais en même temps, il y a une responsabilité, notamment des instances représentatives, de peut-être sonner la fin de la récréation à cet endroit-là.
Bah, je pense aussi, parce qu'effectivement, c'est une escroquerie. Pour moi, le manager-coach, c'est une escroquerie.
Bon, c'est un autre débat, je pense que tu reviendras dans un autre épisode. Et je pense que là aussi, nous allons nous faire des amis. Que souhaites-tu que les auditeurs retiennent de notre entretien ?
Pour répondre à ta question, il faut que je précise quelque chose, c'est que, je ne sais plus qui disait, lire, c'est penser avec un peu d'aide. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne lis pas un livre, tu te sers du livre pour réfléchir. Et je pense qu'écouter ce genre de choses-là, c'est penser avec un peu d'aide. C'est-à-dire que l'effet que ça va avoir dans la tête des gens, c'est l'effet que ça va avoir. J'ai aucune idée de ce que chacun va retenir en fonction de là où il en est de son chemin. Ils prendront ce qu'ils prendront, quoi.
Mais il n'y a pas une idée clé que tu souhaiterais qu'ils retiennent ?
Bah, si. D'abord, que les coachs doivent être supervisés parce qu'il y a un grand danger à ne pas l'être. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la différence entre les coachs et les superviseurs, c'est que le superviseur, c'est un professionnel qui parle à un professionnel. Puis globalement, peut-être aussi l'idée, c'est de dire que la supervision, dans sa forme collective, c'est développer l'apprenant. C'est-à-dire qu'il faut que les managers sachent accompagner leurs équipes dans leur capacité à apprendre.
Quels sont tes prochains projets ? Est-ce qu'il y a un projet de livre ? Parce qu'il me semble quand même que tu as beaucoup de choses à dire et à partager.
J'ai un projet de livre, mais j'ai du mal parce que tout seul, je ne sais pas faire ça. J'ai en projet aussi de mettre en place une formation, de remettre ce que j'ai déjà fait fonctionner sur la supervision des pratiques professionnelles. Je travaille pas mal sur l'apprenance et donc sur comment rendre le travail apprenant. Ça me semble être tout à fait nécessaire dans cet état actuel des choses. Je pense qu'il y a l'ADN du système à changer et que si on ne se dépêche pas de le faire, je ne sais pas ce qui restera de notre société. Je suis en train d'essayer de convaincre les grands décideurs de la nécessité de remplacer la formation par l'accompagnement dans le travail, et notamment la supervision des pratiques professionnelles.
À présent, écoutons la chanson que tu as choisie pour incarner le thème de cet épisode. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Alors il s'agit bien sûr de la chanson Another Brick in the Wall du groupe britannique Pink Floyd. Ce titre comporte trois parties qui figurent toutes sur l'album The Wall, paru le 30 novembre 1979. Pourquoi ce choix, Denis ?
Ça a été un morceau de musique très important dans ma vie. Comme les Beatles, ça a été une sorte de révélation. Dans The Wall, quelque chose qui m'intéresse, qui est l'idée de la manière que les jeunes vont avoir de défaire les murs, c'est de dire arrêtez de nous enseigner quelque chose, c'est pas ça qui va nous aider. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont besoin d'être enseignés, mais ça suffit pas. À la fois, il faut intérioriser un modèle et à la fois, il faut le défaire.
We don't need no education. Mm. Et en même temps, qu'il y a la double négation, c'est en réalité, nous avons besoin d'une éducation, mais pas n'importe laquelle.
C'est exactement ça.
Alors la seconde partie, la plus connue du répertoire du groupe d'ailleurs, le mur, The Wall, est une métaphore de l'enceinte que le protagoniste, Pink, rockstar en proie à ses démons, a bâti autour de lui pour fuir la réalité. Les briques du mur étant les événements qui, au fil de son existence, l'ont poussé à bâtir cette protection. Est-ce à dire que le superviseur a pour rôle d'empêcher que ses clients érigent des murs et y restent enfermés derrière ?
Une des fonctions de l'accompagnant général, du superviseur, c'est de nous amener à défaire les frontières du mental qu'on s'est donné et qui nous enferment et qui nous empêchent d'accéder à quelque chose de beaucoup plus puissant en nous. Avec une très grande difficulté, il faut pouvoir revenir à un état mental qui contrôle en quelque sorte. C'est-à-dire, le problème, c'est pas le mental, c'est pas l'ego, c'est l'incapacité à en sortir. Le mental, c'est un outil formidablement puissant. Mais je sais les limites dans lesquelles il me met, et le travail sur l'état modifié de conscience a comme objectif de me permettre d'en sortir pour agrandir mon champ des possibles, mais un revenu. Ce qui est un problème, c'est pas la puissance du mental, c'est l'hégémonie du mental. Si tout passe par le mental, on est coincé. Si le mental est là pour jouer son rôle, je dirais, d'interface sociale, au fond, c'est grâce au mental qu'on arrive à avoir des relations entre nous, humaines, normales. Mais en même temps, cette interface d'interaction sociale, elle nous limite. Donc c'est bien un certain moment de se défaire de l'hégémonie du mental pour ouvrir le champ des possibles, pour revenir ensuite à une interaction sociale, socialement acceptable, on va dire.
Alors il faut savoir que la portée du titre allait bien au-delà des frontières britanniques. Another Brick in the Wall était ainsi l'hymne contestataire utilisé par la jeunesse noire s'insurgeant contre l'apartheid en Afrique du Sud dans les années 80. Le single sera même interdit dans le pays en mai 80 pour motif d'incitation à l'émeute alors qu'il était en première place du hit parade. Qu'est-ce qui pouvait te rendre contestataire, Denis, quand t'avais 20 ans ?
Je suis toujours dans cette espèce de contestation.
Ça, c'est la question d'après. C'est qu'est-ce qui te rend contestataire aujourd'hui, alors ?
Le fait d'être dans des limites, il y a deux raisons pour lesquelles on est dans des limites. Il faut du temps pour s'en rendre compte. C'est les limites que nous donne le système, et heureusement qu'il nous en donne, parce que s'il n'y a pas de limites, ça serait la guerre en permanence. Et les limites qu'on a soi-même. Et la question, c'est comment je gère les limites que je me donne, pas forcément consciemment, parce que j'ai une morale, j'ai une éthique, j'ai une éducation... Et les limites que me donne le système. Et donc la grande difficulté de la jeunesse, c'est comment gérer les limites qu'elle se donne et la nécessité de les dépasser. La liberté de parole passe par l'acceptation des contraintes du langage. C'est pas moi qui dis ça, mais c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il faut que j'accepte qu'il y ait des contraintes si je veux être libre. Je ne peux pas être libre des contraintes que je n'accepte pas. Mais le problème, c'est que si j'accepte des contraintes, je suis dans un risque d'enfermement, entre guillemets, donc de soumission, de subordination. Et donc la grande difficulté de la vie, c'est d'accepter l'idée qu'il faut avoir des contraintes et d'être capable en même temps de s'en défaire, de s'en libérer.
Donc ça, c'est une superbe réponse, mais t'as pas parlé de toi, là, t'as fait du méta. Tu t'as essayé de t'échapper, mais ça marche pas. Qu'est-ce qui te rend contestataire aujourd'hui ?
Ce qui me rend contestataire aujourd'hui, c'est la difficulté à sortir d'un modèle archaïque. Comment on est incapable de sortir d'un modèle de transmission de compétences purement taylorien ? Très efficace quand on avait une entreprise taylorienne, parce qu'en fait, si tu regardes bien, la fonction de l'école, c'est de préparer les enfants à la vie, et jusqu'à maintenant, l'école, dans sa façon de produire de la subordination, a parfaitement fait son boulot, préparer les enfants à un modèle de société taylorien. Le problème, c'est que c'est plus les nouveaux besoins sociaux. Les nouveaux besoins sociaux, ils s'écrivent plutôt en termes d'adaptabilité, de capacité. Et l'école sait pas faire ça. L'école n'est pas construite pour faire ça. L'école est construite pour produire de la subordination, et c'est tout. Tous les systèmes de formation périphériques, alors on va parler du coaching, etc., système de développement de compétences périphériques, tentent de pallier à cette incapacité de l'école à s'adapter à son nouveau besoin social. Et moi, ce qui me pose un problème, c'est que comme on est resté dans un modèle extrêmement taylorien, organisé autour d'une économie financière, etc., on est en train de courir à notre perte. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans 30 ans, le modèle social dans lequel on est, il n'y sera plus là. Alors qu'est-ce qu'il y aura après ? Je ne sais pas, mais le problème ne sera plus là.
Donc c'est aujourd'hui que les fondations de la société de demain doivent se construire.
Complètement.
Ce que j'entends en sous-jacent, c'est que la supervision professionnelle développe l'apprenance continue.
Exactement.
Et favorise l'adaptabilité des personnes.
Complètement. C'est la seule manière d'arriver à changer de modèle.
Il va falloir former des gens avec cette conscience-là aussi. Il y a quand même un truc qui m'a marqué, c'est que les deux titres choisis sont anglais.
Ma révolution de la musique, ça a été beaucoup autour de cette époque-là. Mais je suis tout à fait passionné par nos grands maîtres comme Ferrat, comme Cabrel. La grande poésie française est extraordinaire aussi. Mais musicalement, je pense qu'à cette époque-là, c'était quand même quelque chose.
Écoute, je pense qu'il y a encore plein de sujets à aborder. Ça pourrait être sympa de faire un autre épisode d'ici quelques temps.
Mmh, tout à fait.
Merci beaucoup, Denis, pour ta participation à ce podcast. Merci.
Merci à toi.
Is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one cake.
Un coach à la une.
Merci de votre écoute. Retrouvez le podcast Un coach à la une sur toutes les plateformes d'écoute et les applications dédiées au podcast. Si l'épisode vous a plu, s'il vous plaît, notez-le favorablement sur la plateforme d'écoute ou l'application que vous utilisez. Cela contribue à développer la notoriété de nos productions. Par ailleurs, vous pouvez liker, commenter ou repartager nos épisodes sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents. Vos questions, réactions ou suggestions sont bienvenues sur notre adresse électronique lemediadescoach@gmail.com. Enfin, si le coaching professionnel vous intéresse, abonnez-vous à nos deux podcasts mensuels, Un coach à la une, l'entretien pédagogique, et Parcours de coach, l'entretien analytique. À très bientôt pour un nouvel épisode.
Un coach à la une, une série créée par David Marion et produite par le Média des coachs.